BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent sans tabou. Que vous ayez un capital, que vous vouliez le faire grossir, ou que vous essayiez d'avoir un capital. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, de 10h à midi tous les jours sur BFM Business. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le mardi 7 mai. Au programme de l'émission, le retour des foncières. Oui, nous allons parler de ces foncières qui sont désormais en bull market. Plus de 20% depuis leur dernier point bas en octobre. C'est Jean-Louis Delloro qui va nous décrypter cela. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours. Antoine Larigauderie depuis Euronext pour couvrir le CAC 40. Et puis nos deux traders pour le match des traders. On réfléchira aujourd'hui à quelles sont les meilleures cartes bleues, les meilleures cartes bancaires pour voyager à l'étranger. Et oui, on fait le point à l'occasion des ponts de mai. Peut-être sur l'occasion pour vous de voyager. En tout cas, ces ponts de mai, ils sont souvent synonymes d'escapade dans une capitale européenne ou ailleurs. Alors autant faire attention également à ses finances personnelles. À 11h15, l'immobilier, on parlera des prix de l'immo qui sont à la baisse. Est-ce le cas dans tout le territoire ou est-ce qu'on observe simplement un ajustement temporaire ou une tendance qui va s'étaler sur plusieurs mois? Réponse de Loïc Quentin, le président de l'AFTAIME. Et le question-réponse du jour sera sur à quel âge faut-il commencer à préparer sa retraite? 35, 45, 55, quels sont les meilleurs placements en fonction de votre âge? Réponse de Christian Fontaine de la rédaction du magazine Le Revenu. Et puis pour finir, le point sur le dollar roi, le dollar grand gagnant du marché d'échange depuis le début de l'année. Le dollar index a atteint la semaine passée son point haut depuis le mois de novembre. Analyse de l'équipe Deft Edge. On est aussi avec vous, chers auditeurs. Vous participez à notre antenne en direct. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Je suis connectée, je vous lis. N'hésitez pas à nous poser des questions, à rebondir. Celles qu'on peut traiter, vos questions, vos réactions, eh bien on les prend pendant le direct. Les autres, hop, elles filent dans notre pompe à questions pour être répondues un petit peu plus tard. Nous partons à Euronext, rejoindre Antoine Larigauderie. Cher Antoine, nous vous retrouvons avec en fond un CAC 40, bon, en hausse, rien de plus.
Oui, sans plus, hein, on peut le dire, plus 0,19%. On est à 8011 points pour l'indice parisien qui verrouille. Pour l'instant, les 8000 points, on les a atteints et même dépassés en séance hier, mais on n'a pas réussi à garder le cap. Là, pour l'instant, ça tient. On est en hausse de 0,33% sur l'Euronext Tech Leaders, un indice riche en valeurs technologiques. Donc, la techno se porte plutôt bien. À noter l'Eurostock 50 qui gagne 0,26%, plus 0,29% pour le DAX à Francfort. Alors, plusieurs secteurs qui sont en pointe ce matin à la Bourse de Paris. Alors, notamment le secteur des vins et spiritueux. On a Pernod Ricard qui gagne 2,3% à 144,60€. On a Rémy Cointreau, forte hausse, plus 6,2% à 95,35€. Alors, semble-t-il, il faut y voir un impact des propos entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, prônant des relations un petit peu plus apaisées entre la France et la Chine sur le point de vue commercial. Et on sait que, justement, le cognac, les vins spiritueux sont au cœur de ces échanges très, très importants. C'est pourquoi Rémy Cointreau est sans doute en forte hausse ce matin. À noter, un autre secteur qui se porte bien, c'est celui de la banque. Avec deux bons résultats ce matin, UniCredit en Italie, UBS en Suisse. Dans le sillage, on a Société Générale qui prend 1,36% à 24,55€. BNP Paribas plus 0,9% à 68,85€. Ça corrobore aussi les bonnes indications qu'on avait eues précédemment du côté d'HSBC ou de Santander notamment. Plus forte hausse du CAC 40, c'est ST Microelectronics qui prend 2,9% à 38,30€. À noter à la baisse Bouygues, c'était une des rares publications du jour et là pour le coup, pas très très bonne. Le titre perd 4,8% à 33,65€. À noter ArcelorMittal qui recule d'1,2% à 24,06€. Et puis toujours autour de mouvements spéculatifs autour d'Atos qui perd ce matin 4,2% et repasse sous 2€. On est à 1,99€. Le CAC plus 0,14, 8007 points et l'euro 1,0760. Lorraine.
À tout à l'heure, mon cher Antoine, à 11h pour un autre point et puis pour votre histoire. À suivre le journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et ce matin, c'est Jean-Louis Delloro qui est avec nous. Bonjour, cher Jean-Louis.
Bonjour, Lorraine.
Rédacteur en chef adjoint de bfmbusiness.com. On démarre avec vous, avec un mot d'inflation. qui ne baisse plus.
Ben, ça baisse plus, en tout cas pas beaucoup. Hein. Le combat contre l'inflation n'est pas encore forcément gagné. Si on regarde les derniers chiffres, entre mars et avril, l'indice des prix à la consommation sur un an, il est quasiment stable. On passe de 2,3 à 2,2%. Ça veut dire qu'on est sur l'épaisseur du trait, grosso modo. Bon, alors c'est vrai, on était encore à 3% début d'année, donc c'est quand même mieux, ça s'arrange, on peut se réjouir. Mais il y a quelques petits signaux orange, notamment parce que si on regarde plus sur un an, mais sur un mois, et ben là, ça a tendance un petit peu à accélérer. L'indice des prix a progressé de 0,2% en mars, puis de 0,5% en avril. Alors, pourquoi ? Principalement à cause des prix des services, qui continuent en quelque sorte de rattraper leur retard sur l'industrie et le reste. Et puis, les prix de l'énergie, qui ont beaucoup baissé, ne baissent plus, voire remontent un peu, comme on le voit avec le prix du baril de pétrole. Alors, dans ce contexte, bien sûr, tous les épargnants doivent se poser la question, est-ce que va donc faire la BCE, la Banque Centrale Européenne, en juin prochain ? Est-ce qu'elle va baisser ses taux ? Donc là, il y a une note d'analyse de Nomura qui est assez intéressante là-dessus. Elle estime qu'avec les taux d'intérêt actuels, la croissance, elle va nécessairement rester molle en Europe, notamment parce que ça assèche complètement les crédits aux entreprises et aux ménages. En outre, l'inflation sur les services, si elle est encore élevée, elle ralentit progressivement. Ça, c'est vrai aussi. Avec un élément qui ressort, c'est quand on interroge les chefs d'entreprise, c'est surtout le manque de main-d'œuvre qui pousse à la hausse les salaires et pas tellement les surplus de commandes. Et ça va être un élément clé pour la BCE, car des taux élevés ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors, Nomura s'attend, eux, ils sont plutôt positifs, ils s'attendent donc toujours à une première baisse de taux en juin pour la BCE. Et ils voient même encore 3 baisses de taux de plus d'ici la fin de l'année. Donc, premier verdict, on verra ça dans un mois.
Voilà, nos entreprises qui font face maintenant à un problème de demande et non plus d'offres. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce premier titre. Le deuxième titre qui retient votre attention ce matin, ce sont les foncières cotées qui sont rentrées en bull market.
Ouais, c'est un des secteurs qui avait le plus souffert. Souvenez-vous, ces derniers mois, avec la remontée des taux d'intérêt, ça va un petit peu mieux. Et les foncières sont même en bull market, effectivement. Car, c'est-à-dire, en bull market, c'est quoi ? C'est quand un marché fait plus de 20% de hausse par rapport à son dernier point bas. Alors, le dernier point bas, c'était octobre dernier. Et si on regarde l'indice sectoriel qui s'appelle le Stoxx Europe 600 Real Estate, alors ça comprend pas mal d'entreprises foncières.
Exemple.
Il y a des Français comme Unibail, Rodamco Westfield, Gecina Klépierre ou encore le géant allemand dont on parle parfois, Vonovia, c'est pratiquement en hausse de 30% depuis octobre dernier, comme le note Alexandre Baradez, qui est responsable de l'analyse des marchés chez IG France. Alors, deux explications. Les marchés anticipent une baisse des taux de la BCE, notamment, ce qui profite à un secteur qui avait été quand même massacré, il faut le dire. Et puis, le crédit aux entreprises ne se contracte plus depuis plusieurs mois. Alors là aussi, c'est plutôt un bon signal pour les foncières.
Voilà, Alexandre Baradez qui sera avec nous dans quelques minutes, puisque c'est un de nos très du jour. Jean-Louis, un mot des seniors qui pèsent de plus en plus lourd dans la consommation, chez nous sans doute, mais en tout cas de manière prouvée aux États-Unis.
Oui, alors la population vieillit, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, mais ça se voit de plus en plus en matière de consommation, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une étude de CPRAM qui se base sur les données officielles aux États-Unis. Les plus de 65 ans représentent désormais pratiquement 22% de la consommation totale des ménages aux États-Unis. C'était seulement 14% en 2004. C'est-à-dire il y a 20 ans, c'est tout simplement devenu la classe d'âge qui consomme le plus en Amérique. Et ça, c'est en train de chambouler toute la structure de consommation des ménages, avec en tête, bien sûr, les dépenses de biens et de services médicaux. Et puis, il y a aussi, on peut penser à d'autres secteurs qui vont en profiter, comme le tourisme et les loisirs. Cette séniorisation progressive de la consommation, ça, c'est un élément qu'il faut absolument garder en tête quand vous êtes un investisseur de long terme en bourse, ou en tout cas, vous misez sur certains secteurs.
Voilà, secteur et tendance du vieillissement de la population, mais pas de la baisse de la consommation. Merci beaucoup, cher Jean-Louis, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on sera rejoint par Christian Fontaine du Revenu. On va réfléchir à l'avenir de notre conseiller bancaire. Sera-t-il là dans quelques années, notre conseiller bancaire ? Et puis, on va aussi réfléchir aux meilleures cartes bleues. On est très conso ce matin pour vous accompagner peut-être dans la préparation de vos vacances ou de vos séjours, de vos week-ends lors des ponts de mai. Mais avant ça, petit point technique, on part rejoindre nos traders pour l'analyse de la séance en cours.
Tout pour investir, le match des traders.
Et nos deux traders ce matin, ce sont Gilles Santacreux et ses algos du site boursicoté.com et Alexandre Baradez de GIG. Bonjour messieurs. Bonjour. Démarre peut-être avec vous, cher Gilles. Bon, ce matin, c'est pas très dynamique. On a un CAC 40 qui est dans le vert, certes, qui est passé au-dessus des 8000 points, mais bon, c'est pas une grosse, grosse dynamique. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée comme ça ? Dites-nous, partagez avec nous ce que vous surveillez de près.
Alors, ce matin, on est dans la continuité d'un mouvement impulsé vendredi dernier, qui a été un petit peu prolongé hier, mais on l'a vu, petit mouvement haussier, avec bon très peu de volume, mais on n'avait pas les investisseurs londoniens. Et ce matin, on ouvre sur un petit gap baissier, qui est vite comblé. On marque un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, et on ne parvient pas à rester au-dessus d'une zone d'équilibre à 8024 points. On ouvre au-dessus de cette zone avec un gap et malgré ça on redescend et on revient ici au niveau de la clôture quasiment, on est en légère hausse mais de la clôture où nous étions hier. Donc on est sur un rebond assez faible, il faut noter que le CAC 40 sous-performe d'autres indices européens comme le DAX. On a hier, et c'était déjà le cas, le luxe qui est un petit peu à la traîne par rapport au reste de la cote. Et au niveau de mes algorithmes, on a une probabilité par rapport au niveau d'ouverture de ce matin d'une légère baisse qui pourrait se continuer donc toute cette semaine avec une probabilité de rebond technique qui commence à apparaître au milieu de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. C'est-à-dire que par rapport, je dirais, à la tendance globale, on est toujours dans une phase de consolidation par rapport à la tendance qui nous a marqué des points hauts au début du mois d'avril. Depuis, on a cassé, donc on a eu un gap de rupture et on est sur une phase de consolidation qui est certes pas très dynamique mais qui continue à nous donner une pression baissière. Le relais de cette phase de consolidation interviendrait sur une rupture de la zone des 7915 points. On en est loin mais on reste toujours sous le risque d'avoir justement une poursuite de ce mouvement baissier. Pour sortir de ce mouvement, il faudrait donc rester durablement au-dessus de cette zone des 8024 points et rejoindre minimum la prochaine résistance mineure des 8092. Pour essayer de sortir la tête de l'eau, sachant qu'on ne sortirait de cette phase de temporisation que sur une rupture haussière de la zone des 8145 points. Donc on a encore du chemin, il faudrait que l'on observe la variation des volumes pour avoir justement un étoffement de ceci, pour réimpulser un mouvement qui sera un peu plus positif, mais pour l'instant ça reste relativement baissier.
Merci Gilles. Alexandre, de votre côté, est-ce que vous voyez aussi encore du chemin devant vous ?
Non, ben pour l'instant, Gilles a très bien écrit, c'est vraiment la phase de consolidation, c'est la phase pour laquelle on plaidait finalement il y a quelques semaines, après ces mouvements assez importants sur les indices, donc on est bien dans cette phase de digestion des mouvements haussiers. Les niveaux, je les partage aussi, ceux de Gilles, hein. Je pense qu'effectivement, tant qu'on est au-dessus de 7009, il n'y a pas de choses spécifiques à attendre. Si on voit un CAC, on voit que c'est vraiment la zone support des dernières semaines, si on revient chercher à nouveau un 7009 et que par exemple, les marchés américains, que ce soit les futurs ou le cash, se retrouvent un peu dans le rouge avec une volatilité qui augmente. Je pense effectivement c'est une zone un peu de vulnérabilité où derrière on aura la fameuse zone en dessous qu'on pourra cibler qui est la zone des 7740. C'est vraiment une très grosse zone de point de vue technique, donc un retour à 7009 effectivement ouvrirait un risque de baisse d'à peu près 3% supplémentaire sur le CAC 40. Donc c'est la zone à surveiller en termes de zone à risque, on va dire. À l'achat, moi j'attends effectivement des signaux quand même plus haut, si vous voulez. Il faut quand même s'assurer que le creux a été réalisé. Donc pour moi, c'est pas avant moins de 8200 points. Voilà. Je préfère à la limite rater un peu de début de hausse, mais avoir un bon signal d'achat ensuite cohérent et auquel on croit vraiment, qu'essayer d'acheter à tout prix à n'importe quel moment. Ça, c'est bien pour un investisseur qui est patient, qui achète régulièrement sur un horizon de plusieurs mois. Il y a évidemment aucun souci pour acheter ces creux. Si on essaie de timer un peu plus le marché en cherchant le moment de la prochaine impulsion haussière et celle qui nous fera sortir à nouveau sur des records historiques. Je préfère quand même attendre un retour au-delà de 8002. Et c'est vrai que cette semaine, elle est assez calme. Hein. Pour moi, c'est une semaine qui va être marquée par trois choses, si vous voulez. D'un point de vue macro, il n'y a pas beaucoup de grosses statistiques. Ce sont, je pense, les discours des membres de la Fed qu'il faudra surveiller cette semaine. Après, tous ces chiffres américains, un rapport sur l'emploi un peu plus faible et un indice d'activité dans les services qui était plus faible, ben ça, effectivement, on voit que ça détend les taux et que les marchés ont plutôt bien aimé. La question, c'est est-ce que les membres de la Fed se satisfont de ça ? Est-ce qu'ils vont commencer avec ces chiffres-là à dire oui, vous voyez, ça ralentit un peu sur l'emploi et dans les services, donc on va baisser les taux. Est-ce qu'ils vont s'engouffrer dans cette voie-là, ce qui serait plutôt aussi pour les marchés, ou est-ce qu'au contraire, ils vont chercher à repousser un peu, malgré ces chiffres-là, les attentes toujours sur les baisses de taux. Donc on va surveiller ça, les speeches. Ensuite, il y aura deux adjudications importantes aux États-Unis, c'est-à-dire le Trésor américain va placer des gros montants de dettes sur des maturités à 10 ans et à 30 ans. Et ça, on sait que dans la phase actuelle, c'est un sujet qui est assez sensible. On voit que le Trésor a commencé à racheter des obligations récemment pour limiter un peu le problème de manque de liquidité qu'on a en fait sur ce marché des bons du trésor américains et des obligations américaines. Donc attention à ça, ça va être des rendez-vous importants mercredi et jeudi à 19h. On aura le résultat de ces adjudications. Et puis le troisième sujet, je trouve qu'on a oublié parce que le prix de l'énergie, du gaz ou autre était revenu sur des niveaux assez cohérents, mais c'est la géopolitique. Voilà, je pense qu'il faut quand même un peu surveiller ce qui se passe à l'Est. Il y a quand même on sent à nouveau une montée en puissance des déclarations agressives de part et d'autre. Et donc, voilà, je pense que ce sujet, je ne dis pas qu'il faut en avoir peur subitement, mais il est un peu sorti des radars parce qu'il n'influençait plus le prix de l'énergie. Mais la géopolitique, telle qu'on l'entend quand même depuis quelques jours, ça hausse le ton à nouveau du côté Russie et puis OTAN. Donc, voilà, à surveiller quand même d'un œil.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce point. On va digérer ce que vous nous dites et s'en servir aussi demain et après-demain, puisque c'est peut-être férié pour vous, c'est peut-être chômé, mais pas pour les marchés. Donc, Tout pour investir sera branché. Nos traders sont également avec nous et puis on continuera à surveiller ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas sur les marchés. Vous avez raison, Alexandre, il faut continuer à parler de géopolitique parce qu'elle occupe peut-être nos esprits de citoyens, mais nous aussi pour les marchés, ça nous concerne. Merci, messieurs. Très bonne journée. Gilles Santacreux de boursicoté.com et Alexandre Baradez de chez IG. Cette séquence est à retrouver sur notre site et notre application si vous voulez vous refaire le match des traders et bien noter leur analyse. Vous restez avec nous, on continue à s'occuper de votre culture financière. Le débat à suivre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et l'équipe du mardi avec nous, Jean-Louis Deloro de BFMBusiness.com est toujours parmi nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Lorraine, bonjour
et
à tous.
Christian Fontaine de l'équipe du Revenu nous a rejoint. Bonjour cher Christian.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu. Nous allons commencer avec une question qui fâche, qui fait débat, ou pas. Est-ce que notre conseiller bancaire a de l'avenir, Christian ?
C'est vrai qu'intuitivement, on aurait envie de répondre non à l'heure des crypto-monnaies, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du tout digital. Et puis, il y a une enquête annuelle qui a été réalisée par la société de conseil Columbus Insight avec OpinionWay qui répond plutôt l'inverse. En fait, il semblerait que les Français et les Françaises attendent trois choses aujourd'hui de leur banque, à la fois du digital, du conseil et de l'humain. Du digital, bon, ça, c'est pas un scoop avec, bien sûr, des plateformes de qualité et une interface qui pourrait peut-être demain faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. En tout cas, 52% des personnes interrogées souhaiteraient avoir la possibilité de choisir les projets financés par son épargne et ce, en ligne. Du conseil, on remarque que lorsque vous avez des visios avec votre conseiller bancaire, presque d'une fois sur deux, dans 45% des cas, elles portent sur un choix pour votre épargne, une première recherche en ligne sur Internet et ensuite un besoin d'être, je dirais, rassuré en matière d'argent et en matière d'investissement financier par un call one-to-one. Une volonté aussi d'être confirmé ou de répondre à d'éventuelles offres commerciales par visio. On voit bien que même si le digital gagne donc en matière d'épargne, on parle de confiance, et lorsqu'on parle de confiance, on a souvent envie de voir une tête, de voir de l'humain en face de soi au moment où il s'agit de signer un bon de souscription. Et donc le troisième point d'attente que je viens un tout petit peu de déflorer, c'est effectivement l'humain. Et d'après cette étude, donc 72% des personnes interrogées ont été dans leur agence au cours des 12 derniers mois. Alors, en fait, on peut en tirer deux ou trois conclusions. La première conclusion, sans doute, c'est qu'en matière d'épargne, l'heure n'est pas au tout digital. Il y a même des acteurs qui étaient 100% digital, qui aujourd'hui reviennent un tout petit peu vers l'humain. Sur le plan du conseil pratique aux revenus, nous, on conseille toujours d'avoir deux banques. Mmh. Une banque pour, je dirais, les opérations du quotidien et une banque pour votre épargne. Voilà, ce qu'on peut aussi conclure peut-être, c'est que le marché de la banque va certainement se polariser un peu comme tous les marchés se polarisent, avec un mass market qui là sera très digital, sera sans doute peu cher mais avec peu de conseils, et puis je dirais un marché beaucoup plus haut de gamme avec du conseil, de l'humain. Et bien sûr, là, il faudra accepter de payer le service. Hein. On parle souvent des grands réseaux bancaires qui réduisent le nombre d'agences, mais il y a aujourd'hui des spécialistes de l'épargne, notamment par exemple le conservateur, qui augmentent sa présence sur les territoires.
Leur boutique physique. Alors moi, ça fait bien plus que 12 mois que je ne suis pas rentrée dans ma banque. Ai-je d'ailleurs une banque physique, Jean-Louis?
Oui, mais pourtant, c'est vrai ce que dit Christian. À chaque fois qu'on fait des études, aussi aux États-Unis, hein, c'est pas qu'en France, en fait, y compris chez les jeunes, les gens ont envie de voir quelqu'un, un contact humain, un conseiller bancaire. Après, moi, je pense qu'il faut quand même un peu taper dans la fourmilière. Il y a quand même deux problèmes majeurs chez les conseillers bancaires. Je pense que tout le monde s'est déjà rendu compte de ça. Il y a un vrai problème, un manque de compétences. Ils sont pas au niveau par rapport aux enjeux patrimoniaux de leurs clients. Et souvent, c'est plus des vendeurs de produits commerciaux et de produits bancaires que des conseillers. Ensuite, il y a un problème de manque de suivi. Vous avez votre conseiller bancaire, il change tous les deux ans, vous savez même plus comment il s'appelle. Quand vous arrivez à le joindre. Donc en fait, celui qui vous a fait le crédit immobilier, ben, c'est plus le même, etc. Donc en fait, tout ça est compliqué. Alors c'est vrai qu'ils sont compétents sur la technique, sur l'administratif, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un peu suradministré le secteur bancaire. Et c'est vrai que c'est très très compliqué pour ceux qui nous écoutent. Même faire un crédit immobilier, en fait, il y a un certain nombre d'étapes obligatoires qui sont parfois un peu effrayantes. Bon, on y arrive, hein, mais au final, et c'est vrai que là, ils vous aident, ils vous accompagnent, etc. Mais peut-être que c'est aussi le rôle du conseiller bancaire qu'il va falloir revoir. Peut-être que ça devrait être plus un chef d'orchestre qui vous renvoie vers des spécialistes. Voilà, donc là, vous avez un petit peu d'épargne. On va vous renvoyer vers notre spécialiste, que ce soit pour les retraites, pour l'assurance vie ou autre. Voilà. Et finalement, orienter les gens comme ça, peut-être que ça mais c'est vrai que c'est plutôt une montée en gamme. Donc, est-ce que ça peut être massifié ? À voir avec l'IA générative ce qu'on peut faire là-dessus.
Une polarisation du marché, un conseiller banquier qui devient plutôt un conseiller financier, Christian ?
Mais c'est vrai, il y a les deux problèmes viennent d'être évoqués. Il y a le problème du turnover, ça c'est clair. C'est un problème d'ailleurs qui est récurrent, qui date des années, mais qui est aussi assumé hein, par un certain nombre de réseaux bancaires. Ça permet de mettre fin à tous les petits arrangements entre amis, entre le conseiller et son client. C'est un vrai sujet sur lequel surfent d'ailleurs les gestionnaires de patrimoine qui insistent sur la durée de relation avec leur client. L'autre problème, effectivement, c'est qu'ils ont énormément de produits et services à vendre. Donc difficile d'être à la fois spécialisé dans les produits d'épargne et dans le crédit, difficile d'être spécialisé dans les assurances IRD et les abonnements en matière de téléphonie mobile. C'est vrai qu'ils ont une palette tellement large que c'est difficile d'être bon dans tous les domaines. Ce qui est certain, c'est que la relation bancaire va certainement évoluer et donc il va falloir être très clair sur vos demandes en matière d'épargne et en matière de services bancaires pour aller frapper à la bonne porte et pour payer le juste prix pour le service auquel vous souhaitez adhérer.
Plus de digital, plus de conseils et plus d'humains, c'est ce qu'on essaie de faire notre pour investir. Est-ce que votre conseiller bancaire, au masculin ou au féminin d'ailleurs, peut vous aider à trouver la meilleure carte bleue pour voyager, cher Christian ?
Ben ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'actualité, hein, notamment si on voyage et on profite un petit week-end pour aller en dehors de la France.
Si vous partez demain, si vous nous écoutez en direct, demain c'est le 8 mai, c'est peut-être un peu tard.
Là, c'est un peu tard. Par contre, pour l'été, c'est parfaitement de mon banc. Non, c'est un vrai sujet. C'est le coût des retraits et des paiements à l'étranger. Si on n'y prend pas garde, je vous dis très franchement, c'est 3%. 3%, c'est une année d'intérêt qui part en une transaction. Je ne sais pas vous, mais moi, ça pique. Donc, quelles sont les solutions ? Et celle-là, justement, il y en a. Alors, si vous restez dans la zone euro, pas de souci. Aussi bien les retraits au DAB que les paiements sont, comme en France, c'est les mêmes conditions. Donc c'est gratuit. Attention quand même, des retraits de DAB, ce qu'on appelle autres que ceux de votre réseau bancaire, peuvent être payants. Une étude de Panora Bank, généralement, les trois premiers sont gratuits. Et ensuite, vous payez un euro par retrait supplémentaire. En fait, le vrai problème, c'est en dehors de la zone euro. Et là, peu ou prou, on ne va pas chipoter. C'est peu ou prou 3% sur les retraits à des DAB et 3% sur les paiements avec des montants fixes et des montants proportionnels. Donc là, vous voyez déjà immédiatement le premier conseil, éviter la multiplication de retraits à des DAB pour des petits montants hors zone euro. Alors, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Aussi bien les grands réseaux bancaires tous les grands réseaux bancaires proposent pour 5-10 euros par mois des packages qui vous permettent de retirer, de profiter de votre argent hors zone euro gratuitement. Et sinon, bien sûr, on pense à tous les nouveaux acteurs, à leurs produits, N26, Revolut, Lydia, Monabank, Hello Bank. Alors, revenu, on a regardé un peu tout ça de près, et c'est la carte de Fortuneo Fausto qui nous a semblé la plus intéressante. Elle est gratuite, sous réserve donc lors d'un paiement par mois. Paiement par carte hors zone euro gratuit, retrait hors zone euro gratuit, retrait déplacé, donc c'est dans des banques, auprès de réseaux bancaires qui ne sont pas celui de la qui a émis la carte, dans la zone euro gratuit et garantie accident voyage. Voilà, c'est ce qui nous semble l'une des offres les plus compétitives en ce moment. En tout cas, c'est un vrai sujet. Si vous partez à l'étranger cet été, regardez, interrogez-vous sur comment vous allez payer vos produits et vos services. Interrogez-vous sur le coût des retraits, sur le coût des paiements et aussi sur les plafonds. On n'y pense jamais. Plafond en cas de retrait, plafond en cas de paiement, c'est déjà arrivé à beaucoup de nos collègues d'auditeurs et téléspectateurs. Vous terminez un long séjour à l'étranger, en club ou à l'hôtel, vous sortez votre carte bancaire, vous êtes un peu stressé parce que vous allez monter dans l'avion quelques heures plus tard et la carte bancaire ne passe pas. Et là, il y a un grand froid. Mais elle ne passe pas parce qu'après un séjour de 8-10 jours, si vous n'avez pas pris vos précautions, eh ben, le plafond de paiement à l'étranger a peut-être été atteint.
Eh ben, vous laissez votre enfant en otage, non ?
Oui. Non. Et puis, on peut aussi prévenir sa banque si on va voyager un certain temps, parce qu'effectivement, parfois, dans
100% d'accord.
Pays, c'est arrivé, ça arrive à des gens. Et ben, en fait, on bloque la transaction parce que la banque est un peu dans son rôle de protection, mais en même temps, c'est votre argent.
Donc là,
on est un peu dans un équilibre compliqué, quoi, parce que c'est quand même notre argent. Donc normalement, on est censé avoir le droit de faire ce qu'on en veut. Mais c'est vrai que parfois, les banques disent oula, c'est bizarre. Là, qu'est-ce que cette personne fait?
Si vous n'avez pas l'habitude d'aller voyager à l'étranger,
voilà,
et que vous faites ensuite 10 retraits en une semaine à Kuala Lumpur ou ailleurs, effectivement, il faut mieux prévenir sa banque.
Donc voilà, donc il se méfie un peu sur certaines transactions. Donc voilà, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc ça peut être bien d'en parler un petit peu avant, justement, avec son conseiller bancaire. Et puis j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour les assurances qui sont liées à votre carte bleue. Bah, faut regarder les détails de votre contrat. On sait tous que c'est fastidieux et très pénible. Mais quand on va dans certains pays, ça peut vraiment être utile.
Ça sert à rien jusqu'au jour où ça sert.
Voilà, notamment il y a souvent des assurances rapatriement ou des choses comme ça. Bah voilà, on est bien content de l'avoir quand on en a besoin.
Cher Christian, que lit-on à la une du Revenu ?
À la une du Revenu ce mois-ci, ben on parle des un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, réussir ses placements immobiliers. On fait le point sur les SCPI, sur le marché des OPCI, sur les marchés des sociétés civiles immobilières que l'on peut acheter dans le cadre de l'assurance vie. On touche aussi un mot sur les foncières cotées. C'est vrai qu'ils ont pas mal rebondi depuis le mois d'octobre, mais il faut dire quand même qu'elles avaient sérieusement trinqué auparavant. On découvre aussi, on explique la possibilité d'investir dans une voiture de collection. En mettant non pas le zoom sur ou l'accent donc alors sur des bolides donc alors à plusieurs millions d'euros, mais des voitures donc alors de tous les jours. Là on voit la coccinelle à l'écran, des voitures qui vont coûter 5, 10, 15 000 euros, qui pour certaines donc alors sont arrivées sur le marché au milieu des années 70, au milieu des années 80. Les voitures que vous avez connues donc alors dans votre enfance, et bien aujourd'hui il est possible d'y investir avec un espoir de gain à 5 ou 10 ans non négligeable. Ça fait partie des placements plaisir, c'est des placements aussi de saison, puisque c'est l'époque où il y a des rallyes automobiles et il faut bien sûr, ce sont des voitures qui roulent, ce sont des voitures après donc alors 45, alors que les voitures avant 45, ben souvent on roule peu avec. Et puis une question d'actualité bien sûr, où placer l'argent des primes d'intéressement et de participation. Voilà, vous avez généralement pour les entreprises qui ont un exercice clos au 31 décembre, c'est la majorité des entreprises, les primes d'intéressement et de participation sont versées avant la fin du mois de mai. Ben, on vous explique en fonction de votre profil où placer cette épargne, plutôt sur le plan d'épargne entreprise, plutôt sur votre perco, ou pourquoi pas essayer de panacher, en placer une partie et puis en toucher une autre si c'est possible par votre accord d'entreprise.
Et nous, Jean-Louis, sur bfmbusiness.com, on retrouve un article sur les groupements fonciers agricoles d'investissement. Les députés ont dit non. Vous nous expliquez ça en 30 secondes ?
Oui, bah c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de simplifier. En gros, dans les 5 à 10 ans, il y a beaucoup d'exploitations qui vont changer de main, en tout cas la propriété des terres agricoles. Et donc, et les jeunes en face qui arrivent, hein, les nouveaux agriculteurs, bon, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc l'idée, c'est d'arriver avec des fonds privés et d'aider les exploitants, alors soit qui passent en location, soit à acheter. Et donc, voilà, donc le gouvernement réfléchissait à ce qu'ils appellent un groupement foncier agricole d'investissement dans son projet de loi agricole, mais les députés on dit non. Parce qu'il y a quand même des arguments contre. Le problème, c'est si les agriculteurs deviennent locataires à vie, c'est pas forcément ce qu'on veut. Il y a aussi le risque de voir diminuer les petites exploitations familiales au profit de plus grandes fermes. Ouais. Ça, il y a débat sur ça. Et puis, ça peut aussi alimenter la hausse des prix des terrains, parce que ça fait plus de demandes, alors que l'offre, elle bouge pas tellement. Alors, moi, je dirais juste pour résumer là-dessus, c'est quand même un sujet sur lequel on devrait dégager un consensus plutôt que de se tirer dans les pattes d'un point de vue politique, parce que c'est un sujet majeur quand même sur les 10 à 20 ans à venir. Donc là, on se dit que le gouvernement a sans doute pas fait son travail jusqu'au bout pour faire émerger un consensus là-dessus, parce que c'est évident qu'il va falloir des fonds privés, comment les attirer, sous quelles conditions. Il faut vraiment dégager un consensus là-dessus.
Un sujet qui nous touche, et on le sait, avec une grosse partie des agriculteurs qui va partir à leur retraite dans les 10 prochaines années. Christian, on vous retrouve dans une heure. L'objet de notre discussion, de notre question-réponse dans une heure, que sera-t-il ?
On va parler retraite, un sujet qui préoccupe plus de 80% des Français, mais à ce jour, il n'y a qu'environ 40% qui épargnent pour se doter d'un complément de revenu à la retraite. Or, il existe des solutions, je dirais, pour éviter une chute du pouvoir d'achat en cas de le jour où vous cesserez votre activité. Et c'est ce qu'on verra un tout petit peu, des solutions si vous avez 30-35 ans, des solutions à 40-45 et des solutions différentes si au contraire vous êtes plutôt à 5 ou 10 ans de la retraite. C'est un vrai enjeu, hein. C'est un vrai enjeu puisque pour les cadres, on le rappelle, hein, la retraite représente peu ou prou à peu près 50% du dernier salaire d'activité. Donc, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'auditeurs et d'auditrices.
Voilà, c'est dans une heure, surtout pour investir sur BFM Business. À tout de suite, on marque une rapide pub et après Nicolas Dose arrive pour votre dose d'économie.
Tout pour investir, dose d'économie.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Extrêmement dissipé Nicolas Dose pour nous parler de Xi Jinping qui quitte la France cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il faut retenir de la visite du président chinois sur le terrain économique?
Je garde deux choses. Il y a des secteurs clairement gagnants de la visite de Xi Jinping, mais après, attention au mythe de la relation commerciale pure et parfaite avec la Chine. Alors Bruno Le Maire est dans son rôle, il dit « Nous voulons une relation commerciale équilibrée et solide avec la Chine ». Doucement, doucement.
Quels sont les secteurs gagnants? Dites-nous des choses positives.
Ah ben le cognac, le fameux cognac. Xi Jinping a levé toute menace de rétorsion contre les producteurs de cognac, puisque la Chine avait lancé une enquête contre NC, hein, c'est le H de LVMH, Martel et Rémy Martin, en janvier, après que l'Europe a lancé une enquête du même genre sur la filière automobile. C'est important, la Chine, c'est une voiture. C'est une bouteille sur deux de cognac.
Lapsus intéressant.
Autre secteur gagnant, la filière porcine. Il y a un accord qui a été signé à l'Elysée hier qui prévoit qu'on va augmenter de 10% les exportations de porc français vers la Chine. Ils consomment beaucoup de porc, les Chinois, et notamment toute la partie abats blancs, les abats blancs qu'on utilise pour faire de l'andouille ou de l'andouillette. Alors ça correspond à d'autres recettes en Chine. Chou blanc, malheureusement, pour les cosmétiques, qui dénoncent depuis longtemps maintenant les exigences réglementaires imposées par la Chine, qu'ils considèrent s'apparenter à du pillage, du piratage de propriété intellectuelle. 2 milliards quand même d'exportations de cosmétiques français vers la Chine. Et là, ils n'ont rien obtenu.
Bon, vous nous évoquiez rapidement les bonnes intentions économiques de Bruno Le Maire sur un équilibre entre la France et la Chine. Est-ce que tout de même certains éléments ont été entendus?
Je crois qu'il faut sortir du doux rêve de la concurrence pure et parfaite telle que l'imagine depuis des années la doctrine européenne. Parce que ce doux rêve se fracasse contre la Grande Muraille, c'est évident. D'abord, il y a deux chiffres. En tout cas, le chiffre, c'est que nous avons aujourd'hui un déficit commercial avec la Chine à notre défaveur de moins 46 milliards d'euros. C'est monumental. Monumental. Et la deuxième chose, c'est que le nerf de la guerre, c'est la voiture électrique. Et là, c'est plus la peine de se dire s'il faut avoir peur de la voiture chinoise. C'est plus des craintes que nous avons, ce sont des faits et une réalité. Et là, c'est des autres chiffres. 76% de hausse de vente de voitures électriques chinoises en 2023 en Europe. Et la prévision, c'est qu'à la fin 2025, une voiture sur quatre qui circulera sur les routes d'Europe sera chinoise. Alors la recette est bien connue, la recette prédatrice de la filière automobile chinoise. Je vends des véhicules 20 à 30% moins cher. Des véhicules chinois. Même si, et même sans le bonus écolo du gouvernement. On a habilement, vous savez, réécrit notre bonus écolo pour qu'ils bénéficient surtout à des voitures européennes et françaises sur des critères environnementaux. Après, une manœuvre ouvrière qui est encore un peu moins chère que chez nous, le fait que la Chine contrôle l'intégralité de la chaîne de valeur et notamment est leader mondial de la batterie électrique, c'est le nerf de la guerre de la voiture électrique, et les montagnes d'investissement, de subventions directes ou indirectes accordées par la Chine à sa filière industrielle. C'est d'ailleurs pour en déterminer le montant exact que la Commission a lancé une enquête. On sera peu ou prou aux alentours de 150 milliards de dollars. Sans compter qu'actuellement, il y a de la surproduction en Chine. Ce qui veut dire que quand vous avez de la surproduction, vous essayez de l'écouler par l'exportation, quitte à vendre à prix cassé. La recette est implacable. Je vais tenter de tuer mes concurrents européens pour dominer totalement le marché européen. Une fois que je domine totalement le marché européen, à ce moment-là, je remonte mes prix.
Voilà. Est-ce que vous avez...
Là-dessus, pas de progrès. Hein.
Bon. Est-ce que vous avez quelques idées, quelques solutions pour, comment dire, tenter de résister?
Alors, il y a la solution Trump, le protectionnisme à fond les ballons, c'est-à-dire on met des droits de douane de 50. Vous avez vu, il y a eu un institut de recherche qui a dit qu'il fallait mettre du 50% de droits de douane sur les voitures chinoises, ou on met plus, 60%. Alors là, on est sûr qu'on aura des mesures de rétorsion en face, ça c'est absolument évident. Puis de toute façon, ça veut dire, on dit à son consommateur, tu vas payer plus cher. Alors, après, il y aurait une solution qui serait considérée sans doute comme... plus vertueuse, c'est de taxer l'empreinte carbone des véhicules. Alors, c'est l'objectif du MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européens, mais qui est complètement embryonnaire, ce mécanisme d'ajustement carbone, puisqu'il ne taxe que des matières premières et pas des produits finis. Voilà. Alors après, au bout, le problème, c'est qu'au bout du bout, l'effet pour le consommateur, c'est qu'il devra payer plus cher. Mécanisme d'ajustement ou solution à la Trump, il paiera plus cher. Avec l'histoire de faire payer l'empreinte carbone, on peut miser sur le fait de faire vibrer la fibre écolo de l'acheteur occidental. Alors, c'est probablement celui qui a les moyens qui vibrera le plus avec ce genre de choses. Bon, mais il n'y a pas de solution miracle. Parce qu'on ne va pas avoir des voitures qui vont être au même prix. C'est absolument certain. En tout cas, après la France, Xi Jinping va continuer sa tournée européenne. Ça devrait être plus cool parce qu'il va aller en Serbie et en Hongrie. Des pays qui sont très sino-compatibles, on va dire.
Ça va être plus cool pour lui, oui.
Oui, c'est des pays qui sont les principaux relais de la Chine en Europe. Ce n'est pas pour rien que BYD va installer sa première usine de voitures électriques en Hongrie. Et là, du coup, les voitures BYD sortant de Hongrie devraient se retrouver éligibles au bonus écolo de Emmanuel Macron. Non, la solution magique, elle n'existe pas.
Et oui, cette chronique sans fin de nos relations entre la Chine et la France et l'Europe. Voilà, vous avez bien résumé. Cognac 1, voiture 0.
Là, j'ai eu du mal à trouver le titre parce qu'en plus, on est limité en nombre de lettres, mais c'est à peu près simple.
Les chiffres et les lettres. Merci beaucoup, cher Nicolas Dos. Cette chronique, pour votre réflexion, est à votre disposition en podcast et en replay sur notre site et notre application. Si vous aussi, vous voulez tenter d'identifier des solutions pour résister sur YouTube, vous pouvez commenter la chronique de Nicolas Dos sur la chaîne BFM Business. Cette chronique est postée tous les jours par notre équipe. À suivre, on va parler d'un sauveur, on va parler d'un leader et on va parler d'un visionnaire. On s'occupe de votre portefeuille. À tout de suite.
Tout pour investir. En portefeuille.
Nous accueillons Guillaume Di Pizio ce matin. Bonjour cher Guillaume.
Bonjour.
C'est votre première dans Tout pour investir, bienvenue. Vous êtes responsable de la gestion chez Dauphine AM. Avec vous, on va parler d'histoires d'hommes, de sauveurs ou en tout cas de repreneurs, de CEO qui sont dans votre radar, à la tête d'entreprises sur lesquelles vous êtes à l'achat ou en tout cas attentif. Racontez-nous de qui allons-nous parler.
Oui, on a mis un accent tout particulier sur la gouvernance. C'est vraiment un axe prioritaire pour nous quand on investit dans des sociétés parce que c'est finalement la gouvernance qui est à même, le manager qui est à même de bien développer et faire prospérer sur le long terme l'entreprise et créer la valeur pour les actionnaires.
Alors donc, on démarre avec un leader.
Voilà, donc on a identifié trois types de managers. Le leader, c'est celui qui est... qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise. Donc là, par exemple, le leader le plus emblématique pour nous, c'est Christopher Guérin, qui est patron de Nexans, donc qui est rentré après ses études en 1997 dans le groupe.
Pur sucre, comme on dit.
Voilà, pur produit. Donc Nexans, c'est des câbles, c'est 4,5 milliards de capitalisation, des câbles de cuivre. Et donc, il a grimpé tous les échelons, il était patron de l'Europe, et puis... il est devenu, il a été nommé patron, enfin CEO, donc manager en 2019. Et Là, il a appliqué les méthodes qu'il avait déjà appliquées pour l'Europe, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment une simplification du groupe. Il s'est dit, je vais directement aller propulser sur un plan à 10 ans la société sur, pour être le leader mondial, l'un des leaders de l'électrification. Et donc, il a fait une transition douce avec des suppressions de clients. Il est passé de 17 000 clients à 5 000 clients. Il a coupé 40% à peu près des références pour vraiment se concentrer sur des câbles voilà, plus spécifiques, mieux margés, avec des spécificités comme les éoliennes ou le transport d'un continent à l'autre d'énergie.
L'élagage de Nexans qui vous plaît, une gouvernance voilà, concentrée sur les activités les plus cœur du groupe, ça vous rend positif sur cette valeur. À long terme, on sait que le cours du cuivre qui est autour de 10 000 dollars en ce moment est très élevé, niveau inédit depuis 2 ans. Qu'est-ce que le cours du cuivre a comme impact sur l'entreprise ?
Alors effectivement, s'il y a un choc de demande sur le cuivre, c'est parce qu'effectivement on est sur des métiers porteurs et on a besoin de tout électrifier. Nexans aujourd'hui a garanti ses approvisionnements sur 5 ans en volume. Et après, les impacts de prix sont transférés directement sur la facture du client.
Nexans, voilà, avec un leader à ses manettes qui a fait sa carrière, toute sa carrière dans l'entreprise, ça vous plaît. Un autre leader qui a repris une entreprise et qui vous plaît, c'est le patron de Rolls-Royce.
Voilà, le patron de Rolls-Royce qui, lui, en fait, est arrivé quand l'entreprise était en crise. Donc Rolls-Royce, c'est des moteurs d'avion.
Peut-être un leader, mais surtout un sauveur, du coup, vous nous dites.
Voilà, il était parachuté finalement dans l'entreprise pour redresser une situation qui était quasi catastrophique après le Covid, quand le trafic aérien s'est arrêté, toutes les usines se sont arrêtées, plus personne, toute la planète a retenu son souffle. Et donc, certaines sociétés ont réussi un petit peu à redresser la barre, et Rolls-Royce, en fait, a perdu quasiment 80%, et puis n'a pas quasiment s'est stabilisé entre 2021-2022, n'a pas réussi vraiment à redresser la barre. Donc, on a remercié son ancien président, et on a fait venir ce sauveteur, donc, qui était surnommé Turbo Touffan, effectivement avait fait un travail excellent chez BP pendant 20 ans avec éthique, avec énergie, et donc lui il a fait un redressement, il a coupé les coûts, il a redressé la boîte, et donc depuis qu'il est arrivé le cours de bourse a pris quasiment 400%.
On parle du très court terme, hein, oui. 2022-2023.
1er janvier 2023, il est arrivé, il a redressé la boîte, 400%, 40% depuis le début de l'année. Et donc aujourd'hui, il s'est réimposé sur des gros moteurs d'avion. Alors certes, il bénéficie aussi des déboires de Boeing, où là, il y a un petit peu de place à prendre aujourd'hui. par exemple, ils ont pris le monopole sur les gros porteurs, les A350, où ils équipent 100% des motorisations de ces appareils.
L'équipage des A350, l'équipement des A350, la vision à moyen terme sur cette valeur, sur cette entreprise Rolls-Royce ?
Eh bien, déjà, la société n'a pas rattrapé les niveaux d'avant Covid. Donc, y a énormément à faire. Et puis, le trafic aérien, quand on voit qu'il y a 10 années de carnet de commandes, ouais. Chez les constructeurs d'avions, forcément, il y a un potentiel qui reste gigantesque.
On finit avec vous dans le secteur de la mode. Une des valeurs qui se porte bien, on parle du groupe Brunello Cucinelli, qui a été créé par quelqu'un que vous qualifiez de visionnaire. Racontez-nous l'histoire.
Voilà, alors Brunello Cucinelli, qui est donc le fondateur et qui a donné son nom à cette marque de luxe, qui s'est introduit en 2012 à Milan.
On est sur du prêt-à-porter très très haut de gamme.
C'est du prêt-à-porter très très haut de gamme. En fait, au début, c'était que des pulls en cachemire. Et donc, c'était le roi du cachemire. Il est arrivé avec du cachemire de très haute qualité. Donc, c'est de la vigogne. C'est des animaux qui vivent dans la cordillère des Andes, avec une production qui est extrêmement réduite. Et c'est des produits de très haute qualité. Et donc, il a su s'imposer partout dans le monde depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est présent dans 54 pays. Et donc, il a un rayonnement international. Il est un petit peu présent en Asie, où ça représente à peu près 27% des ventes. Et donc, là encore, il y a une croissance qui est tout à fait raisonnée, dans la mesure où, comme ses prédécesseurs, comme les autres managers qu'on a présentés, c'est pas une course au volume à tout prix. C'est pas une course à faire le plus de chiffres en très peu de temps. Il y a une vision de long terme, avec le respect des ateliers pour qu'ils puissent continuer à produire correctement, le respect des approvisionnements. Et puis donc c'est une croissance qui est de l'ordre de 10% par an. Mais voilà, on est sur des produits comme Hermès. Le secret en fait de la désirabilité des produits de Brunello Cucinelli, c'est que ils renouvellent leur gamme chaque saison. Chaque saison, c'est le style particulier de Brunello Cucinelli, et donc ça entretient ce niveau de désirabilité de la marque.
La désirabilité et le volume nécessairement capé de cette marque qui en fait un objet d'attention pour votre entreprise. Chez Dauphinheim, vous surveillez de près les visionnaires, les sauveurs et les leaders. Merci d'avoir partagé avec nous cette vision très gouvernance sur les entreprises qui retiennent votre attention et qui peuvent intéresser nos éditeurs, nos auditrices pour leur portefeuille. Merci beaucoup Guillaume Di Pizio, responsable de la gestion chez Dauphinheim, pour ces suggestions d'entreprises sur lesquelles miser. Vous restez avec nous, on va réfléchir à l'argent et au bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui ou non? Jean-Marc Daniel a une réponse un peu moins binaire. A tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Et oui, nous commençons cette séquence en musique, en hommage au groupe des années, du groupe Yéyé, les Parisiennes. Est-ce que l'argent fait le bonheur, Jean-Marc ?
Oui, je reviendrai juste sur cette introduction, parce que les Parisiennes, moi j'ai connu, pour vous c'est de l'histoire, pour moi c'est des souvenirs.
Oh, je vous permets pas.
Et donc, j'ai connu les Parisiennes.
Vous avez connu intimement les Parisiennes ?
Pas intimement, mais en tant qu'auditeur, sur un poste transistor. Mmh. Et donc, elles chantaient aussi une chanson qui s'appelait « Il fait trop beau pour travailler ».
C'est vrai.
Et donc,
ça vous plaît, ça ?
Oui, absolument.
Cet état d'esprit un peu.
C'est une forme de sagesse qu'il faudrait un peu généraliser. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Comme elles disent dans la chanson, celui qui a dit ça n'avait pas d'argent. Et donc la question qui s'est posée très rapidement par rapport aux gens qui ont fait fortune, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont enviables, est-ce qu'il faut les envier, est-ce qu'il faut les condamner? En fait, dès l'Antiquité, l'expression apparaît. Alors, on date ça plutôt de la période du passage de la République romaine à l'Empire romain, quand Rome se pose des questions sur les vertus, sur son passé glorieux qui est devenu un passé avec énormément de gens qui ont fait fortune, avec un personnage qui s'appelle Crassus, qui est des triumvirs. Les triumvirs, c'est César, Pompée, qui sont les plus connus, et Crassus. Et Crassus, c'est l'homme le plus riche de Rome. Il achète quasiment sa position. Et il veut connaître la gloire de ses deux autres rivaux, que sont César et Pompée. Et donc, il décide de mener une campagne militaire contre les Parthes. Les Parthes, c'est des gens qui contrôlent un territoire qui, à l'heure actuelle, est à peu près autour de la Turquie et de l'Iran. Et il va subir une défaite terrible contre un général parthe qui s'appelle Surena. Et Surena, une fois qu'il l'a capturé, va lui verser de l'or fondu dans la bouche en lui disant « Tu vas pouvoir te rassasier de ce métal dont tu es si avide.
Ouais, » Et donc, d'être si riche.
Voilà, ça sert à rien d'être riche. Et l'or que tu cherches, que tu veux absolument accumuler, ne te nourrira pas. Regarde. Et donc, évidemment, Crassus meurt dans des conditions atroces. Et la question que se posent les Romains, c'est est-ce que cette quête de la richesse, cette quête de l'argent est fondée? Alors, Virgile va donner une première réponse, et puis Horace, et puis Sénèque. Donc Virgile, il dit « Ori sacra fames », c'est-à-dire « le désir d'argent est exécrable », et il dit aussi « O fortunatos nimium si oasi bonanorint agricolas », formule que tous les lecteurs d'Astérix, qui est les auditeurs des Parisiennes, mais aussi qui sont lecteurs d'Astérix, connaissent, puisqu'à chaque fois que les pirates sont coulés dans Astérix, le chef des pirates dit « O fortunatos nimium sois si bona norit agricolas », ce qui veut dire en latin que le paysan qui mène une vie simple est un homme heureux, et il ne mesure pas combien il est heureux par rapport à tous ces gens riches qui accumulent, qui cherchent à avoir de l'argent, qui sont en permanence à chercher des coûts, des affaires, les moyens d'accroître leur fortune. Et donc Virgile est plutôt sur la position « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais Horace dit « la vraie question c'est est-ce que l'argent en tant que tel ne fait pas le bonheur, la thésaurisation ça rapporte rien, mais quand même ça permet d'accéder à un certain confort. Et Sénèque va lancer la formule célèbre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mmh. C'est-à-dire qu'avoir de l'argent, effectivement, en soi, ça n'a pas grand sens. Le Harpagon qui compte ses pièces d'or, qui ouait sa cassette et tout ça, l'avare est un personnage qui effectivement n'est pas heureux, mais détenir de l'argent, c'est quand même un moyen d'avoir accès à un certain nombre de services, de confort, de bien-être qui contribuent au bonheur. Donc d'une certaine façon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
Est-ce qu'il faut être riche ou est-ce qu'il faut être pauvre pour avoir un avis sur est-ce que l'argent...
Alors, c'est une question que sont posées assez récemment les économistes. C'est-à-dire, est-ce que, d'une part, on est riche dans l'absolu ou est-ce qu'on est riche par rapport aux autres? Est-ce que, alors là aussi, dans une pièce, il est inspiré d'ailleurs par le destin de Crassus et de ce général Part qui s'appelle Surena, il y a un vers qui est « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». C'est-à-dire que dans l'argent, dans l'accès à la richesse, il y a non seulement le plaisir que l'on retire de cet accès à la richesse, mais il y a aussi la comparaison avec les autres. Et donc, en permanence, les économistes se sont posé la question de savoir est-ce que l'argent et le bonheur est quelque chose de personnel ou est-ce que c'est quelque chose de social et de relatif. Alors, les chrétiens avaient répondu à la question. Il n'est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille que de faire entrer un riche au paradis. Donc la réponse était claire, le riche de toute façon, ce n'est qu'illusion et il paiera dans l'éternité la jouissance qu'il a pu éprouver sur terre. Donc ça c'est dans l'évangile de Matthieu. Mais à partir du XVIIIe siècle, on considère...
Matthieu, saint des financiers.
Si c'est le saint des financiers, il était effectivement publicain, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui maniait de l'argent, qui prélevait les impôts et qui faisait crédit à l'État romain. Et donc Goethe va dire tout ça c'est de la propagande. Il y a une formule célèbre de Goethe qui dit être en bonne santé sans argent, c'est déjà être un peu malade. C'est-à-dire qu'il faut de l'argent. L'argent, toujours pareil, l'argent, c'est le moyen d'acquérir le bonheur. Et donc, la question de la richesse, c'est quel est le seuil minimum? On l'a eu récemment, le débat, avec le directeur... le salaire décent, mis en avant par le directeur général de Michelin. Alors, les économistes, par exemple, Daniel Kahneman, qui est un économiste qui nous a quittés au mois de mars, avait fait de longues études sur le cas des États-Unis, et il s'était aperçu que jusqu'à 75 000 dollars, les gens considéraient qu'ils n'avaient pas assez. Et qu'après...
75 000 dollars par quoi? Par mois ou par an?
Par an. De revenus par an, on est dans les années 2000. Hein, Et donc, il dit, après, au-delà, les gens sont satisfaits d'avoir un revenu complémentaire, d'avoir plus de 75 000 dollars, mais la satisfaction qu'ils éprouvent est extrêmement décroissante, ça décroît très très vite, et donc, en réalité, c'est à 75 000 dollars que se trouve le seuil où on bascule entre l'envie, le besoin, le sentiment que finalement tout va bien. Bon. Alors, il y a d'autres études qui avaient été faites, notamment par Jean Fourastier. Vous savez, Jean Fourastier, économiste célèbre, c'est l'homme des 30 glorieuse, et il disait que dans toute sa carrière, chaque fois qu'on avait demandé à différents moments est-ce que les gens étaient riches ou pauvres, tous les gens se considèrent comme pauvres, même ceux qui sont considérés par les autres comme étant riches, et ils estiment qu'il leur manque en général entre 10, 15 voire 30% de revenus pour avoir, même pas la richesse, pour avoir une situation que les gens de Michelin qualifieraient de décente. Et donc, manifestement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'absence d'argent fait le malheur, et l'absence d'argent a plutôt tendance à être vécue très très rapidement. On se considère en absence d'argent à des revenus qui sont relativement élevés.
Bon, et vous ?
Alors écoutez, moi je me pose la question à partir de deux considérations. Je ne me plains pas de mon revenu et je considère que mon revenu est plus que correct et que le véritable enjeu c'est quand est-ce qu'il va faire beau pour cesser de travailler, comme disaient les Parisiennes. Et la deuxième considération qui me frappe, c'est que effectivement, je pense que c'est Sénèque qui avait raison, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur en soi, que Crassus était ridicule et que manger de l'or ça n'apporte rien, c'est immangeable. Mais en revanche, ça contribue quand même à un certain confort. Ce confort, je l'ai atteint, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie de l'atteindre.
Il y a un chef à Dubaï qui cuisine des steaks avec de l'or.
Oui, absolument. Absolument. Et puis, il y a des palais d'or sur du chocolat. On met des petites feuilles d'or et tout ça. Mais Crassus, je crois qu'on lui en avait mis beaucoup dans la gorge.
Oui, un peu moins dans celle de Franck Ribéry et d'autres amateurs de steak doré. Merci Jean-Marc pour cette réflexion sur la richesse qui ne suffit pas pour atteindre le bonheur, mais qui contribue. On a parlé de Sénèque, on a parlé de Virgile, on a parlé de Crassus, un petit peu de César, un peu de Pompée. Voilà, de la réflexion, de la culture. Un petit mot pour finir sur Bernard Pivot, qui nous a quittés, qui lisait en moyenne 10 heures par jour. Je pense que pour participer activement à une bonne hygiène financière, il faut lire. Et vous pouvez lire les livres de Jean-Marc Daniel.
Oui, alors pas forcément 10 heures par jour, mais il faut lire. Et effectivement, il faut lire mes livres.
Voilà, merci beaucoup Jean-Marc d'être avec nous toutes les semaines et puis au quotidien sur BFM Business. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, l'ensemble des séquences avec Jean-Marc est à trouver sur notre site. On parle de Wall Street, on parle de boursicoter, on parle de monnaie.
De pognon.
Proverbe de pognon.
Henri Pognon.
Vous aussi, vous avez des idées, des thèmes, des mots en rapport avec le vocabulaire financier ou économique à soumettre à Jean-Marc, bien vous m'écrivez en direct, en message privé sur LinkedIn, je vous lis, ou par email, direct@bfmbusiness.fr. Je salue Eric, qui nous envoie souvent des bonnes idées. Vous restez avec nous, on marque une rapide publicité. Léo Dumas vous donne les dernières actus à 11h. On partira du côté d'Euronext faire le point sur la séance en cours au CAC 40, sur le CAC 40. Et puis on réfléchira à l'âge auquel il faut commencer à préparer sa retraite. Et en fonction de votre âge, quelle place privilégié. C'est important la retraite. On vous participe à votre éducation financière. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.